L'Hebdo Région. 7 jours dans les pays de la Loire.
Damien Le Boulanger.
Bonjour, l'actualité de la semaine dans votre région résumée en 25 minutes, c'est tout de suite dans l'Hebdo Région, une émission concoctée par les rédactions de La Roche-sur-Yon, Le Mans, Nantes, Angers et Laval. En Vendée, le département s'emploie à faciliter l'accès aux tarifs sociaux de l'énergie pour les personnes éligibles, nous expliquera Fanny Brevet. L'agriculture biologique est à la traîne en Sarthe, le département est le dernier de la classe au niveau régional quant au développement de ce secteur. Bilan et perspectives tout à l'heure avec Adrien Blanc. Vivre des festivités sans distinction de handicap, c'est la raison d'être du festival Handiclap qui vit depuis jeudi sa 25e édition à Nantes. Anthony Torzek de Fidélité Nantes nous la présentera. Autre festival cette fois-ci en Anjou, et elle est musicale. C'est ouvert cette semaine la nouvelle saison du Printemps des Orgues, une série de concerts à travers tout le Maine-et-Loire pour promouvoir et entretenir la centaine d'orgues que compte le département. Enfin, lundi marquera le 50e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Un événement au cœur duquel une personnalité politique mayennaise a joué un rôle. Véronique Lara lèvera le voile à la fin de l'émission.
L'Hebdo Région, les radios chrétiennes à l'écoute des pays de la Loire.
Et on débute avec Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et l'actualité de la Vendée est marquée tout d'abord par une actualité économique et sociale. Mieux identifier les personnes éligibles aux tarifs sociaux de l'énergie, c'est ce à quoi s'emploie le CIDEV.
Constatant une déperdition du nombre d'ayants droit potentiels, le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée a réalisé une enquête auprès des centres communaux d'action sociale de 13 communes vendéennes. Les 148 témoignages collectés ont permis de comprendre la différence entre le nombre de personnes pouvant prétendre à ces tarifs et le nombre effectif de bénéficiaires. Les précisions de Joël Soulard, président de la commission Solidarité au CIDEV.
Les tarifs de première nécessité, il y a un certain nombre d'ayants droit. Sur la Vendée, c'est à peu près 9000 ayants droit. Mais on se rend compte que sur tous ces ayants droit, il y a en gros 2000-2200 personnes qui ont accès à ces tarifs. Donc c'est la principale interrogation, puisque ça ne représente que 25% des ayants droit qui peuvent bénéficier de ces tarifs. Les gens qui sont à la CMU, donc les gens qui sont en difficulté, donc peuvent bénéficier de ces tarifs. La problématique, c'est essentiellement le croisement des fichiers, que chaque personne ayant droit soit bien informée, et puis toute la procédure qui est un peu compliquée, et je pense aussi un manque d'information qui fait que les gens ne connaissent pas l'existence de ces tarifs, reçoivent un formulaire, mais ne voient pas forcément l'intérêt et ne renvoient pas le formulaire.
Et pour faire face à ce constat, un nouveau décret daté du 6 mars dernier vient de voir le jour. Il permettra une automatisation de la démarche. En clair, les organismes d'assurance maladie communiqueront aux fournisseurs de gaz et d'électricité la liste des bénéficiaires de la CMU complémentaire. Un recoupement sera alors effectué. Si cette démarche d'automatisation est essentielle, elle ne supprime pas le besoin d'information.
Il y a toujours besoin d'avoir de l'information, et notamment auprès des travailleurs sociaux qui sont en contact direct avec ces populations, pour les aider justement, les informer, leur faire comprendre l'intérêt de ces tarifs et les aider pour remplir les formulaires qui sont des formulaires classiques, donc toujours un petit peu compliqués à remplir. Il n'y a pas une demande par manque d'information, puisque les gens ne savent pas qu'ils peuvent bénéficier de ces tarifs, mais par contre il y a un réel besoin, puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, 9000 ayant droit sur la Vendée, ça veut dire que 9000 personnes pourraient bénéficier de ces tarifs.
Et dans les prochains jours, le CIDEV va demander à ses 282 communes adhérentes de diffuser une information au sujet des tarifs sociaux de gaz et d'électricité dans leurs bulletins municipaux. Et puis le mois de septembre 2012, baptisé Mois de la solidarité en Vendée, sera l'occasion de mettre en place 8 réunions d'information à destination des maires, du réseau ADMR et des travailleurs sociaux du Conseil Général. Mais dès à présent, informations et formations vont être dispensées auprès des élus, des membres des CCAS, des associations de locataires, mais aussi des associations de consommateurs.
Parlons politique maintenant avec Benoît Paru, ministre délégué chargé du logement, qui était en Vendée ce vendredi.
Oui, en début d'après-midi, il a visité l'entreprise PRB qui fabrique des revêtements pour le bâtiment à la Motte-Achard avant de poser la première pierre de 20 locatifs sociaux à La Roche. À 16h15, il a signé une convention avec Bruno Retailleau, le président du Conseil Général. Convention qui va permettre de lancer des projets d'urbanisme exemplaires sur plusieurs sites pilotes. Enfin, Benoît Apparu a participé au forum Vendée Avenir consacré à l'habitat et à l'urbanisme et organisé autour de trois thèmes, le partage de l'espace, la revitalisation des centres-bourgs et l'architecture. Au cours de la soirée, le Conseil Général a annoncé une série de nouvelles mesures en faveur de l'habitat et de l'urbanisme. Après Dominique Souchet qui a déposé au début du mois une proposition de loi visant à reconnaître officiellement le génocide vendéen de 1793-1794, Bruno Retailleau est intervenu au Sénat sur la répression de la Vendée. Le sénateur vendéen indique avoir déposé une proposition de loi d'abrogation des deux décrets datant des 1er août et 1er septembre 1793, des décrets dits d'anéantissement et d'extermination de la Vendée alors même que la Vendée ne représentait plus un danger pour le pouvoir en place. Le président du Conseil général explique qu'il ne s'agit pas d'une proposition de loi mémorielle qui imposerait une vision officielle de l'histoire, mais plutôt de rompre symboliquement avec une législation contraire aux droits de l'homme.
Et pour finir, quelques idées de sortie, Fanny.
Oui, si vous avez l'occasion de venir en Vendée ce week-end, sachez que la 99e édition de la Foire Exposition de La Roche-sur-Yon a ouvert ses portes jeudi, dédiée cette année au Carnaval. La plus importante foire du département attire chaque année près de 30 000 visiteurs. Près de 220 exposants sont attendus jusqu'à dimanche. Et dimanche, c'est le jour de la mi-carême de Couex. 10 chars préparés depuis plusieurs mois par les carnavaliers sont attendus l'après-midi dans les rues de la commune. Départ du défilé à 14h. La mi-carême de Couex, une institution depuis plus de 50 ans qui accueille chaque année entre 5 000 et 10 000 spectateurs.
Merci Fanny pour cette actualité de la Vendée. Vous nous parliez depuis les studios de RCF Vendée.
L'Hebdo Région, l'actualité des Pays de la Loire.
Et nous retrouvons dès maintenant Adrien Blanc dans les locaux de RCF Le Mans. Bonjour Adrien.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Vous nous parlez comme chaque semaine de l'actualité en Sarthe, une actualité marquée tout d'abord par des centaines de familles sartoises qui devraient être expulsées cette année.
C'est une information de la CNL, la Confédération Nationale du Logement, qui prend la parole alors que jeudi dernier marquait la fin de la trêve hivernale. Vous savez, c'est cette période où il est interdit d'expulser quelqu'un de son logement. La CNL se base notamment sur les chiffres de l'an dernier, 535 assignations à quitter le logement en 2011, dont 179 expulsions qui auraient été accordée par le préfet, sachant qu'elle se passe avec l'intervention de policiers ou de gendarmes. La Confédération nationale du logement a écrit au maire pour empêcher les expulsions qui lui semblent les moins tolérables, c'est-à-dire celles des plus démunis qui vivent en logement social.
Autre actualité, l'indignation aussi à la Poste où la grève se durcit.
Et oui, jeudi, au Mans, des piquets de grève ont bloqué des centres de tri et le siège de la Poste en Sarthe. 7 postiers ont d'ailleurs été condamnés par la justice pour ce blocage. 427 000 plis n'auraient donc pas été acheminés. En tout, la grève est entamée depuis lundi à l'appel de Force Ouvrière et la CGT et elle toucherait 90 000 usagers en Sarthe. Les négociations avec la direction devaient reprendre ce vendredi matin sur la question de la charge de travail. Un préavis de grève illimité est posé pour mardi prochain. Et dans les trains, ce sont des usagers qui font grève. Pour la ligne Nantes-Angers-Le Mans-Paris, un collectif a appelé à ne pas présenter les cartes d'abonnement aux contrôleurs cette semaine. C'est un moyen de protester contre les retards à répétition qui seraient liés au changement d'horaire du 11 décembre dernier.
Mais Adrien, c'est sur un constat que vous avez décidé de vous arrêter cette semaine pour le dossier « Le bio a du mal à s'enraciner en Sarthe ».
Et oui, c'est le GAP 72, le groupement des agriculteurs bio, qu'il a reconnu lui-même alors qu'il tenait son assemblée générale à Alonne lundi. Dans l'après-midi, les agriculteurs ont débattu du rôle des collectivités locales dans le développement du bio, l'objectif étant d'arriver à 20% d'aliments biologiques dans les cantines d'ici 2020. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, selon le président du GAP 72, Thierry Barré.
Aujourd'hui, le constat en Sarthe, c'est que l'agriculture biologique ne se développe pas ou très peu au regard des autres départements. On est le dernier département des Pays de Loire et de loin. Sur deux départements, on a une vraie dynamique de la profession agricole à aller vers la bio, enfin au moins inciter. En Sarthe, on ne l'a pas. Il n'y a pas de message très fort. On est sur des exploitations plus traditionnelles, plus céréales, de taille plus importante. Nous, en Sarthe, pour l'instant, on a un projet là sur Alonne qui implique deux ou trois collectivités, dont la mairie d'Alonne, pour initier un maraîchage, une production de maraîchère bio à destination de la restauration collective. C'est-à-dire que là, on va mettre en place une dizaine d'hectares de maraîchage bio avec différentes structures, collectives et privées, dont l'objectif sera d'assurer la production de légumes bio pour les collectivités de la zone du Mans.
Et pour développer encore l'alimentation bio en Sarthe, le GAP 72 s'appuie sur des actions de collectivités locales en France.
Il y a une incitation des collectivités à passer toute une zone en bio. Et l'objectif, voilà, c'est de convertir une zone pour protéger la ressource en eau. Sur l'île de France, sur la Normandie, entre autres, il y a quelques cas assez intéressants sur 500, 1000 hectares, 1500 hectares qui sont convertis en bio, avec une dynamique derrière d'aider les producteurs à passer en bio, et après une dynamique d'utilisation des produits bio produits sur place, et aider les collectivités à s'engager à prendre les produits bio produits localement.
Et si la Sarthe, si les collectivités locales de la Sarthe s'engageaient à ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'elle arrivera à atteindre les 20% de nourriture dans les cantines d'ici 2020 ?
Ça serait ambitieux. Après, localement, ponctuellement, on peut proposer, au moins sur des légumes ou sur une partie des produits, d'arriver à un approvisionnement à 20% en plus, à condition qu'il y ait cette volonté un petit peu collective.
C'est-à-dire une volonté des élus, des agriculteurs et des citoyens.
Sans transition, l'armée recrute, on le sait, mais en même temps, elle aide les militaires à trouver un emploi.
En effet, comme dans toute entreprise, des soldats veulent partir à la fin de leur contrat, alors contrairement aux entreprises, l'armée s'occupe de leur reclassement. Il y en a 90 qui cherchent ainsi un emploi en Sarthe actuellement. Alors mercredi, l'armée a organisé une visite du camp d'Auvour, le camp militaire à l'est du Mans, avec près de 70 chefs d'entreprise et chargés de recrutement. Pour le côté ludique, elle leur a montré des armes et des blindés, et côté professionnel, elle leur a vanté les mérites du 2e RIMA, c'est le régiment d'infanterie de marine. Elle a rappelé que beaucoup de militaires sont formés au permis poids lourd, qu'ils sont obéissants et surtout ne regardent pas leurs heures. Enfin, Damien, est-ce que vous connaissez la série Nicolas Le Floch, le téléfilm diffusé sur France 2 ?
Bien sûr, Adrien, qui ne raterait pas les fameuses enquêtes de ce détective sous Louis XIV ?
Eh bien, un prochain épisode va être tourné dans la cité Plantagenet, le centre médiéval du Mans. C'est samedi dernier qu'avait lieu le casting pour les figurants. Plus de 200 candidats se sont pressés devant l'office de tourisme. Et le tournage, lui, a lieu du 2 au 5 avril.
Merci Adrien pour toute cette actualité de la Sarthe. Bon week-end à vous.
Bon week-end, à la semaine prochaine.
L'Hebdo Région, les radios chrétiennes à l'écoute des Pays de la Loire.
Direction maintenant la Loire-Atlantique où nous retrouvons à Nantes Anthony Torzec. Bonjour.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Vous nous parlez cette semaine du festival Handiclap qui s'est ouvert jeudi pour sa 25e édition, un festival qui met sur scène des personnes handicapées.
Oui, des personnes handicapées sous les projecteurs. Chaque année, en fait, le festival Handiclap favorise par l'expression artistique l'intégration des personnes handicapées. La 25e édition est organisée donc ce week-end à Nantes. Théâtre, exposition, concert, tous les spectacles en fait aborderont la question du handicap avec des personnes handicapées ou pas. Ça se passe sous chapiteau, sur le quai de la Fosse, mais également sur l'île de Nantes ou encore à la maison de l'avocat. C'est organisé par l'association APAGE 44. Son président Rémi Turpin y voit l'occasion chaque année pour les personnes handicapées de se faire reconnaître autrement.
Il y a au moins deux messages qu'on peut faire passer. D'abord, c'est d'être ensemble, de faire la fête ensemble, de se rencontrer, d'apprendre à se reconnaître, donc à changer les regards et à être dans l'acceptation de la différence. Ça, c'est un premier message. Le second message, c'est lorsqu'on voit des artistes en situation de handicap, on voit le côté artistique, le côté positif, l'acteur, l'homme, les valeurs de l'homme. Et donc là, on oublie le handicap et c'est ce qu'on voudrait bien passer comme message. Voir dans l'individu que le côté positif, toutes les potentialités qu'il représente.
Et qu'est-ce que la personne handicapée a apporté à notre société d'aujourd'hui et surtout en termes de créativité?
Écoutez, je crois que c'est une sensibilité particulière, notamment pour les artistes que l'on voit exposés dans les galeries. Vous savez qu'avec Claude Brumachon, pour la deuxième fois, il crée un spectacle de danse qui intègre finalement le handicap. Et je crois qu'il a retrouvé effectivement dans l'expression des corps, l'expression du déplacement des personnes qui sont un petit peu plus en difficulté, là toute une sensibilité qui lui a permis d'aller vers une création très particulière et où s'expriment beaucoup d'émotions et beaucoup de sensibilité.
Rémi Turpin, le président de l'association APAGE 44 qui organise donc le festival Handiclap, c'est tout ce week-end à Nantes. On reste dans ce domaine du handicap avec une quarantaine d'associations de Loire-Atlantique qui appellent à manifester ce samedi après-midi devant la préfecture de Nantes. Ce collectif, ni pauvre ni soumis, veut interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur les moyens alloués aux personnes les plus fragiles de notre société, les personnes handicapées, les précaires, les personnes âgées sans ressources. Parmi les associations mobilisées, l'association des paralysés de France, Alzheimer Loire-Atlantique ou encore l'ADAPI 44.
Il est de coutume de dire que la musique adoucit les mœurs, Anthony. Elle peut même aider médicalement.
Oui, 150 musicothérapeutes participent ce vendredi et samedi à la faculté de médecine de Nantes à 2 jours d'études cliniques. La musicothérapie permet de soulager bien des maux. On utilise par exemple la musique avec des patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou encore dans la lutte contre la douleur. 5000 personnes ensemble contre le cancer du sein. La course à pied Odyssea va réunir dimanche à Nantes 5000 coureurs. Départ du cours Saint-André. Chaque participant muni d'un t-shirt rose financera ainsi la recherche et l'aide aux malades. Enfin, la région a bien besoin d'eau d'Amiens. Les pluies de ce week-end seront salvatrices. La Loire-Atlantique souffre d'un déficit de pluviométrie. Depuis octobre, il est tombé sur le département seulement 270 mm d'eau. La normale pendant ces mois d'hiver est de 500 mm, donc quasiment 2 fois plus. Conséquence, les nappes phréatiques ne sont pas assez chargées, ce qui laisse présager des restrictions de consommation d'eau pour cet été. Voilà pour l'actualité en Loire-Atlantique d'Amiens et on espère donc des pluies pour ce week-end.
Je vous le souhaite en tout cas. Bonne journée et bon week-end à vous, Anthony.
Merci, à la semaine prochaine.
L'Hebdo Région, l'actualité des Pays de la Loire.
Maria Goyer, bonjour.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Vous nous avez rejoints pour parler de l'actualité en Maine-et-Loire cette semaine. Et on commence avec un mot de politique et la fin de campagne présidentielle pour le député-maire de Cholet, Gilles Bourdoulex.
En effet, le président et candidat du Centre National des Indépendants et Paysans, le CNIP, n'a pas réussi à rassembler suffisamment de signatures. Il n'en compte qu'un peu plus de 200 sur les 500 nécessaires, sans compter celles qui seraient arrivées directement au Conseil constitutionnel. Une nouvelle qui n'est pas une véritable surprise. Déjà en 2007, le CNIP avait présenté un candidat sans réussir à passer cette barre fatidique. Il s'était alors à l'époque rallié à Nicolas Sarkozy et l'UMP. Un conseil directeur du parti doit se réunir le 24 mars pour définir cette fois-ci sa position.
Autre actualité de la semaine, ils étaient plus de 500 à défiler mardi matin dans les rues d'Angers pour défendre les emplois technicolores.
L'intersyndicale CGT, CFE, CGC et CFDT du fabricant d'électronique voulait faire entendre la voix des 350 salariés angevins menacés par la fermeture de leur site. Ils étaient pour le coup soutenus dans les rangs par leurs collègues de Rennes et d'Issy-les-Moulineaux, déjà touchés par les suppressions de postes, ainsi que plusieurs autres salariés de grands groupes du Maine-et-Loire. Le site Technicolor d'Angers est en attente d'un éventuel repreneur, mais celui-ci n'arrive pas, alors que la direction du groupe Thomson Technicolor a annoncé vouloir stopper la production de décodeurs faute de travail en perspective. Le site a été depuis placé en procédure de sauvegarde, une démarche que dénoncent les syndicats car pour eux, le groupe Thomson cherche à se débarrasser d'eux à moindre frais, comme il avait déjà tenté de le faire en 2006. Une délégation a été reçue par le préfet du Maine-et-Loire. Ce dernier a confirmé la tenue d'une grande table ronde sur le dossier le 30 mars prochain, réunion qui rassemblera syndicats, employeurs et responsables politiques locaux. Et puis en justice, jeudi a débuté à huis clos le procès de 4 jeunes devant la cour d'assises des mineurs de Maine-et-Loire. Un procès durant lequel ils seront jugés pour actes de torture et meurtre sur un handicapé. Les faits remontent à 2009. La victime, âgée d'une 40aine d'années, se retrouve chez lui en compagnie de 4 jeunes, dont 2 mineurs. Pendant plusieurs heures, il sera l'objet d'actes de violence inqualifiables avant de décéder. 7 jours de débats sont programmés. Les 2 majeurs encourent la prison à perpétuité. Et les 2 mineurs risquent quant à eux une peine de prison d'une 20aine d'années. Le verdict devrait être rendu en fin de semaine prochaine.
Et on passe à une page culture, Marie, avec le Printemps des Orgues qui fête ses 20 ans cette année.
Et créé en 1992, le festival a pour vocation la connaissance, la sauvegarde et la promotion des orgues du Maine-et-Loire. Il a débuté jeudi par un concert de jazz, voix et orgue à la Collégiale Saint-Martin à Angers. Et en 20 ans, ce festival a fait découvrir à un public varié les richesses des 108 orgues que compte le département, mais aussi d'en assurer la restauration, car par son action, la CSPO a réussi à restaurer 6 instruments en Maine-et-Loire depuis 92. Bruno Morel, fondateur et président du Printemps des Orgues, nous explique le regard qu'il pose sur ces 2 décennies.
un regard satisfait d'avoir ouvert l'orgue à toute forme d'horizon, d'avoir créé entre l'orgue et les arts et tous les arts des passerelles, et d'avoir en quelque sorte démystifié cet instrument, d'en avoir fait un instrument ouvert, d'avoir fait se rencontrer des publics qui n'étaient pas forcément censés se rencontrer auparavant, d'avoir mêlé les publics de la danse contemporaine, du théâtre, de la littérature avec l'orgue, également du jazz. Un festival qui est né de la passion pour les orgues à tuyaux, les orgues des églises, mais qui s'est ouvert vers d'autres arts. Et grâce à ces autres arts, un public nouveau a découvert également les sonorités des orgues des églises, a découvert le répertoire de ces instruments et a fait en sorte d'être le moteur pour la restauration de ces instruments.
Le prochain concert de la 20e édition du Printemps des orgues se déroulera le vendredi 30 mars à 20h30 à Segré pour un concert de musique française pour la Semaine Sainte.
Et on termine avec des enjeux sportifs ce week-end pour les équipes du Maine-et-Loire.
En football, l'Angesco joue son maintien en Ligue 2 à la veille de la 28e journée. Le club est placé 17e du tableau ex aequo avec le premier relégable. Et puis en hockey sur glace, les Ducs d'Angers débutent leur série de rencontres de demi-finale des playoffs de Ligue Magnus. Premier affrontement ce vendredi à Rouen. Deuxième ce samedi toujours en Normandie avant le troisième match mardi prochain à la patinoire du Haras d'Angers.
Avec à la clé peut-être une finale de play-off. Merci beaucoup à Marie Agoyer de nous avoir présenté cette actualité du Maine-et-Loire. Bon week-end.
L'Hebdo-Région, au cœur des Pays de la Loire.
Et dernière étape de cette semaine pour l'Hebdo-Région, nous la faisons à Laval, en Mayenne, où nous retrouvons Véronique Lara de Fidélité Mayenne. Bonjour Véronique.
Bonjour Damien.
Vous nous parlez tout d'abord d'énergie renouvelable.
Le département de la Mayenne est le seul des Pays de la Loire à produire de l'énergie hydroélectrique. Située sur la rivière La Mayenne, 16 turbines produisent en effet 0,3% de l'énergie utilisée dans le département. Installées en 1954, celles-ci vont toutes être changées entre 2012 et 2015 par EDF, qui compte passer à 1% avec ces nouvelles machines. Le chantier de 12 millions d'euros est soutenu par le Conseil Général qui est gestionnaire de la rivière. L'objectif du Conseil Général, c'est d'atteindre les 23% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Cela dit, en comptant outre l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, le photovoltaïque, la méthanisation ainsi que le traitement des déchets.
Autre constat, le prix moyen des loyers a globalement baissé de 0,6% dans les Pays de la Loire.
Et comme toutes les moyennes, elle est faite de disparités. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les loyers ont baissé de moins 3% à Saint-Nazaire, de moins 1,4% à La Roche-sur-Yon, moins 0,6% à Nantes, moins 1,2% à Angers. Seule la Mayenne et la Sarthe connaissent une augmentation, respectivement de 0,8% et 0,3%. Le phénomène s'est amplifié depuis début 2012, alors qu'il s'était estompé en 2010 et 2011, après une chute importante au moment de la crise 2008.
Lundi prochain, on célébrera le 50e anniversaire des accords d'Évian qui ont marqué la fin de la guerre d'Algérie. Et Véronique, c'est un événement qui a un tout petit rapport avec la Mayenne.
Et oui Damien, de très très loin en effet. Alors vous le savez, ces accords ont été négociés par 22 personnes au total, 11 de chaque côté, France et Algérie, mais signés seulement par 6. Pour la France, il s'agissait de Louis Jox, de Jean de Breuil et de Robert Buron, ministre des Transports de l'époque. En fait, Robert Buron était un Mayennais, voilà le lien que nous avons trouvé. Il a été en effet maire de Laval et député de la Mayenne. Gaston Chérel, historien de notre département, nous en dit quelques mots.
Le gouvernement français a envoyé trois émissaires. Louis Jox, ministre des Affaires algériennes. Jean de Breuil, qui est un libéral républicain indépendant. Et Robert Buron, qui est ministre des Travaux publics et des Transports. On savait que ce qui compterait plus que le contenu des accords, ce serait leur application. Et Robert Buron n'a pas caché que l'application des accords d'Évian serait difficile. Parce que la guerre dure depuis 8 ans, qu'il y a eu des tensions, qu'il y a des drames, que les familles, quelquefois, sont divisées, et qu'il y a une incompréhension qui s'est installée entre les communautés. La Mayenne est un département qui a accueilli des pieds noirs pendant l'été 1962. Les pieds noirs reviennent donc quelquefois avec deux valises uniquement et ils ont du mal à trouver leur place. Et quelquefois ils ont l'impression que l'opinion publique française se désintéresse un peu de leur sort.
Dans notre entretien, Gaston Chérel rappelait combien les douleurs sont encore grandes des deux côtés. Certes, les blessures demanderont encore certainement du temps pour se refermer. En tout cas, la célébration de ce 50e anniversaire des accords d'Évian est l'occasion de délier les langues et les esprits, peut-être d'apaiser en éveillant le dialogue.
Enfin, vous nous parlez, Véronique, du très haut débit qui arrive à Laval.
Juste 5 mois après le début des travaux d'installation de la fibre optique, les premières entreprises commencent à souscrire leurs abonnements. En juillet, toutes les zones d'activité de l'agglomération lavalloise seront raccordables, ainsi que plus de 300 sites publics. En 2014, ce sont 80% du territoire de l'agglomération qui devrait être couvert. Il faudra attendre 2018 pour qu'elle soit couverte à 100%. Laval sera alors la première agglomération française fournie après Paris. Voilà Damien pour ce qui est de l'actualité mayennaise cette semaine. À bientôt.
Merci Véronique et à la semaine prochaine. C'est la fin de cette hebdo-région réalisée par les journalistes et techniciens de vos radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt.